A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Salut à tous, bienvenue dans l'heure olympique, c'est la dernière de la quinzaine et pour conclure en beauté, nous recevons aujourd'hui Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Car oui, si Pékin se termine, il est déjà temps de se pencher sur les Jeux de Paris qui débuteront dans exactement 887 jours. Mais avant d'évoquer Paris 2024, il sera question de bilan dans ce podcast. Après le biathlon samedi, nous nous pencherons sur le ski alpin aujourd'hui avec notre consultante Flo Masnada. Je suis Adrien Yo et à mes côtés, Laurent Vergne et Maxime Dupuis. Salut à tous.
Salut.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti. Or, argent, bronze, le ski alpin a décroché 3 médailles lors de ces Jeux olympiques de Pékin. Clément Noël en slalom, Yoann Claret en descente et Mathieu Fèvre en géant. Un bilan équivalent en termes de médailles à ce que les Bleus avaient rapporté de Pyeongchang il y a 4 ans. Mais ce bilan est-il supérieur qu'en 2018 ? On en parle avec notre consultante Flo Masnada. Salut Flo, quel bilan général fais-tu du ski alpin ?
Comme tu viens de le dire, je pense qu'il est, il est bon. Il est bon parce qu'il y a eu un beau titre. Nos favoris français, ceux qui étaient en forme en tout cas, ont bien répondu présent. Le petit bémol, c'est pour Tessa Worley. On est déçus parce que numéro 2 mondial en géant, elle avait fait des podiums, victoire cette année. Et elle n'a pas réussi à s'exprimer pleinement sur ces jeux. Donc, c'est le petit bémol et le fait qu'il n'y ait pas du tout de médaille chez les filles. Quoi. Je pense que c'est. Mais en même temps, ça confirme la saison de Coupe du Monde. Quoi. Les plus jeunes, elles sont à leur place en vitesse. Donc, on ne pouvait pas non plus espérer n'importe quoi. Surtout que ces jeux ont consacré essentiellement des champions qui sont en forme.
Alors, il y a aussi chez les hommes Alexis Pinturo qui est aussi passé à côté. Tu vois ça aussi, comment t'expliques ça ?
Moi, pour moi, Alexis, l'année dernière, il a fait une saison tellement incroyable. Ça faisait des années, des dizaines d'années qu'on attendait ça. Numéro un mondial, je pense que ça lui a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Il a gagné énormément. Il a aussi gagné, en plus, il avait réussi la Coupe du Monde plus les championnats du monde. Faut pas oublier non plus. Donc, qu'il ait un petit coup de mou cette saison, même s'il a quand même fait des podiums. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de Français qui ont fait des podiums. Mais lui, il en fait partie en Coupe du Monde. Donc, faut pas oublier ça. Il est arrivé avec des objectifs. En plus, il tombe, il se blesse. Je pense que... il est avant tout déçu lui-même et nous on est déçus pour lui, mais ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait auparavant.
Laurent, Maxime ?
Oui, ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait auparavant, mais j'ai presque envie de dire que ça rehausse le bilan français parce que 3 médailles, dont un titre, alors qu'Alexis Pinturo et Tessa Worley, qui étaient quand même les tauliers de ce groupe France. Alors, Mathieu Fèvre avait été champion du monde 2 fois l'année dernière, mais globalement, depuis plusieurs années, que ce soit Tessa Worley en géant ou Alexis Pinturo dans pas mal de disciplines, au moins 3, on va dire, dans ces jeux où il pouvait vraiment briguer une médaille. Le fait qu'il y ait 3 médailles, c'est-à-dire le même bilan qu'à Pyeongchang, et c'est à peu près dans la norme. Si on fait la moyenne des podiums du ski alpin français depuis 20 ans, 3, je pense qu'il y en a eu 4 à Salt Lake City, il y en a eu 2 parfois, il y en a eu 3 assez souvent. Donc, on est à peu près dans la norme tricolore, on va dire. Mais le fait que cette norme soit atteinte sans Alexis Pinturo, sur lequel on comptait pour peut-être, on va dire, au moins 2 médailles, hein, parce que le combiné, il n'y en a plus en Coupe du Monde. Hein, il n'y en avait pas eu depuis les championnats du monde. Donc, c'était difficile d'avoir des repères. Mais Alexis Pinturo, c'est l'homme du combiné. C'est là où sa polyvalence doit s'exprimer au mieux. Et vraiment, c'est dans cette épreuve-là, vu la concurrence qu'il y avait, ou on va dire la relative faiblesse de la concurrence, il devait être sur le podium à minima. Donc pour lui, je pense que ça, c'est vraiment une énorme déception, mais il l'a dit, je pense qu'il a tout résumé, il ne l'avait jamais dit aussi clairement. Il a dit qu'il avait minimisé l'impact sur lui de ce gros globe de cristal qui lui a bouffé une énergie folle physiquement, mentalement. C'était Évidemment que les Jeux Olympiques, c'est un objectif immense, mais je pense que pour un skieur, gagner le gros globe, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est la consécration ultime. Je ne veux pas dire que n'importe qui peut devenir champion olympique, mais sur une course, on sort la course le jour où il faut. Vous avez un petit coup de pouce peut-être de la météo. Vous avez un ou deux favoris qui vont sortir, qui vont partir à la faute. Et boum, vous pouvez vous retrouver champion olympique. En revanche, vous ne pouvez pas gagner le gros globe de cristal sur une forme de concours de circonstances. Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est le plus gros accomplissement pour un skieur, c'est de gagner le gros globe. Il l'a fait et je pense que c'était aussi après ça qu'il courait ou qu'il skiait depuis des années. Et il savait qu'avec la retraite de Marcel Hirscher, il avait un énorme coup à jouer. Donc, il est arrivé sur cette saison complètement sur les rotules, mais malgré ça, il avait quand même fait des podiums en géant, il avait fait un podium en slalom, le combiné, il était le grand favori, donc il pouvait vraiment, légitimement, c'est briguer à minima, vraiment à minima, une médaille, et ça aurait permis d'avoir un bilan pas loin d'être historique, parce que 4 médailles, par exemple, ça aurait été du jamais vu depuis Salt Lake, et ça aurait été le meilleur bilan français avec Salt Lake depuis Grenoble 68, qui est vraiment un cas à part, on va dire, avec les 8 médailles. Donc oui, je trouve que le bilan du ski français, il est bon, et il aurait pu être vraiment exceptionnel avec un Alexis Peintureau à son meilleur niveau. Donc oui, c'est décevant, mais d'une certaine manière, ça montre aussi, c'est bien de se dire que tout ne reposait pas que sur lui.
Si on se penche sur les points positifs, disons Maxime, Yoann Claret, Clément Noël et Mathieu Fèvre, ils n'étaient pas forcément tous attendus. Ils l'étaient plus ou moins selon les uns les autres. Clément Noël, ça a été la cerise sur le gâteau.
Ah oui, c'est l'exceptionnelle cerise parce que déjà historiquement, il faut rappeler qu'il y a 3 titres en slalom, qu'il avait fait un super, super début de saison et qu'à un moment, il avait un peu perdu le fil. Et lui, il fait un peu le lien, on va dire, entre ce que disait Laurent, entre ceux qui sont là pour une course d'un jour et ceux qui sont très bons sur le long terme. C'est-à-dire que lui, on l'attend sur le long terme et finalement, on se rend compte que ça coince un petit peu sur le slalom pendant la saison et il renaît, on va dire, le jour J avec cette formidable seconde manche, cette deuxième partie de parcours qui est formidable. Donc oui, c'est vraiment la très, très grosse cerise sur le gâteau. Mais moi, j'ai une petite question pour continuer sur Alexis Peintureau. C'est Laurent, tu l'as dit, ça lui a bouffé de l'énergie de gagner le gros globe parce que c'est l'accomplissement ultime. Ce qu'on ne voit pas toujours dans le grand public, parce qu'on se dit bah, les Jeux Olympiques, c'est au-dessus. Non, mais sur la régularité, c'est ça le plus important. Est-ce que finalement, alors c'est facile de dire après, il ne se trompe pas dans l'approche à un moment des JO en se disant bon, bah, finalement, la Coupe du Monde, c'est fait. Maintenant, l'objectif, c'est les JO et peut-être avoir donné aux JO plus de poids et peut-être cette mine pression un peu indue sur sur lui en se donnant cet objectif final qui est le moins prévisible, on va dire, parce que comme on l'a dit, c'est d'être là le jour J.
Mais je crois qu'il n'a pas eu le choix, en fait. Il n'a pas eu le choix, puisqu'en fait, dès le début de la Coupe du Monde, il est beaucoup moins régulier.
Donc, mais est-ce que ce n'est pas une conséquence, justement, de tout ça?
Ah oui, tu veux dire oui, le fait de ne pas démarrer très bien en Coupe du Monde et de faire un match par rapport à Odermatt, est-ce qu'il est. C'est... Oui, mais en même temps, en ski alpin, on sait très bien qu'on doit réussir les Coupes du Monde avant pour garder les dossards, pour la confiance, pour après arriver en forme, si possible, au jeu. Moi, je lui avais envoyé un message en disant bon, écoute, voilà, la Coupe du Monde, voilà, ces derniers temps, ça ne va pas bien, mais peut-être que l'esprit des jeux va rallumer la flamme en toi. Et moi, je croyais vraiment à ça. Et je croyais déjà à ça pour Clément Noël, qui effectivement avait gagné, puis après il ne savait plus où il était un petit peu. Et moi je disais non, mais il va être champion olympique, quoi. Bon, c'est facile à dire, mais je m'étais dit qu'Alexis Peintureau, ça pouvait jouer de la même manière. Malheureusement, ça l'a pas fait, même si on a vu que pour le parallèle, il skiait fort hein, quand même aujourd'hui, Alexis Peintureau.
Mais la différence pour moi entre Clément Noël et Peintureau sur cette saison, c'est que Clément Noël, il est le meilleur slalomeur du monde.
C'est vrai.
Quand il s'exprime, et d'ailleurs, ses adversaires le disent. Hein. Fausse Levag l'a dit. Il a dit, même si il a eu une période difficile, il est le plus rapide. Donc, alors évidemment, hein, c'est du slalom en plus. Donc, la moindre faute se paye très, très, très cher. Et elle a souvent des conséquences définitives. Mais pour moi, Clément Noël, oui, c'est l'anomalie, c'est qu'il n'ait pas gagné 4 ou 5 slaloms cet hiver, ouais. En fait. C'est pas qu'il soit champion olympique. Pour Peintureau, le cas est vraiment différent parce que je pense qu'il a été touché mentalement, mais peut-être dans son orgueil aussi, parce que quand on est le numéro un mondial, qu'on vient de gagner le gros globe de cristal, ça doit forcément être difficile d'accepter et de constater que, notamment un Odermatt, qu'il avait quand même déjà beaucoup poussé en fin de saison dernière. Il faut se souvenir que sur les, ouais, on va dire, allez, presque les deux derniers mois, après les mondiaux, vraiment, il était passé un petit peu derrière. Donc finalement, ce n'était pas une grosse surprise, mais c'est forcément difficile à appréhender pour quelqu'un comme Alexis Pinturault. Donc, il y a eu aussi cette histoire de matériel où il s'est dit, est-ce que je n'ai pas fait une erreur en n'optant pas pour ces skis-là, alors que beaucoup y sont passés. Donc, je pense que tout ça s'est mélangé un peu dans sa tête. Et quand on est habitué à gagner des courses de façon très régulière depuis des années, le fait de ne pas gagner, parce que s'il a fait des podiums, il ne gagnait plus. Et je pense que ça a vraiment miné sa confiance. Et dans le sport de haut niveau, on sait comment ça se passe. La confiance, ça met très, très longtemps à la construire. Et elle peut s'effriter, en revanche, beaucoup plus vite. Donc il arrivait vraiment dans des conditions délicates dans ces Jeux. Oui, il espérait, on espérait tous que tout allait se remettre en place un petit peu comme par miracle, mais c'est ce qu'on a vu aussi avec Émilien Jacquelin. Alors, même si Jacquelin a fait, lui, un gros début de saison, mais il est arrivé sur ces Jeux dans le doute. Et mine de rien, moi, je pensais à Jean-Luc Rétier, par exemple, dont tout le monde avait dit c'est une immense surprise qu'il soit champion olympique parce que il n'avait jamais rien gagné. Oui, mais sauf qu'on oublie que Jean-Luc Rétier, quand il arrive à Nagano, il fait une énorme saison. Il est numéro 2 mondial en descente et il est vraiment au sommet de son expression et de sa confiance. Donc, c'est très, très différent de ce qu'on a pu voir pour un Alexis Pinturault dans cette quinzaine.
Ouais, l'illustration, c'est aussi avec Strolz.
Oui.
Strolz, par exemple, avant cette saison, moi, inconnu. Honnêtement, et j'ai regardé ses résultats même en début de saison, en slalom, il ne prend pas des qualifs, quoi. Et après, avec le 38 ou le 36, il gagne à Delboden.
Ouais.
Et là, il fait deux titres et une médaille d'argent. Donc, c'est sa saison aussi, c'est son moment.
Manque de confiance, lui, en tout cas, il en avait de la confiance. C'était Johan Claré qui avait fait une descente à Kitzbühel peu de temps avant les Jeux Olympiques, qui décroche l'argent. Ça a été un des grands moments forts des Jeux, ça, Flo.
Ah bah oui, ah ouais, non mais là c'était fabuleux quoi. On a vibré le début de saison pour le coup en demi-teinte aussi. On s'est dit tiens, l'équipe de descente avec ce qui était arrivé, l'accident de Brice Roger tout d'abord, d'Adrien Théo, on sait que le groupe est très très soudé, il y a une vraie émulation, une vraie confiance les uns les autres et voilà, pas loin il y avait toujours l'esprit de David Poisson, donc voilà, c'était un peu particulier et puis il a fait son chemin tranquille, il avait ciblé Kitzbühel, il est là à Kitzbühel, en plus il partage le podium avec un autre Français, avec Blaise Gizendaner, et il est arrivé assez tranquille, et moi honnêtement quand j'ai vu la descente je me suis dit c'est pas tout à fait pour Johan quoi. Je trouvais presque trop facile la neige, et ben non, il a été là et bien là, et c'est quand même fabuleux de s'exprimer à 41 ans comme ça, et puis ouais je ne sais pas comment dire quoi. C'est un rayon de soleil
rayonne, ouais.
Pour toute l'équipe. Ouais.
Et un dixième du titre.
Oui.
Pour dire
qu'en plus frustrant.
On n'ira pas jusqu'à dire ça, mais
ouais, je pense pas quand même.
Non, mais c'est formidable. Voilà, et c'est typiquement le skieur aussi qui arrive en confiance. Voilà, on arrive. Il y a Kitzbühel, la deuxième place. Puis tout se met, on va dire, toutes les cases s'empilent parfaitement. Et puis au résultat, on a cette descente-là formidable. Et cette première émotion pour le ski alpin des Jeux, ça me paraît tellement loin maintenant.
Ouais.
Mais c'est vrai que pour Johan Claré, on pouvait craindre que cette piste soit presque trop, ouais. Trop facile, entre
trop
guillemets.
Lisse.
Ouais, et lui, voilà, Kitzbühel, c'est son truc. C'est pas le truc de tout le monde, hein, là, je travaille pas quand même. Mais lui, c'est son truc. Mais il nous l'a dit quand on l'a reçu dans le podcast L'Heure Olympique. En fait, je pense que pour lui, aujourd'hui, à son âge, il sait qu'il ne peut pas viser toutes les courses. Parce qu'il le dit, il y a des jours de course, il se lève et voilà, il se sent un peu comme quelqu'un qui a 60 ans. Donc, c'est compliqué. Mais en revanche, il a besoin d'une carotte, d'un truc qui le motive. Donc, Kitzbühel, c'est très facile. Et là, il y avait un podium olympique. Donc, je pense qu'il marche beaucoup à ça. Et c'est vrai que c'est un bonheur de le voir, de l'écouter aussi. Et nous, quand on l'a reçu, il est tellement épanoui. Et voir ce qu'il fait à plus de 40 ans, c'est assez incroyable. Je pense qu'on ne se rend pas tout à fait compte et qu'on se rendra peut-être compte davantage avec le recul du temps que c'est réellement exceptionnel d'être deuxième à un dixième du titre d'une descente olympique à 41 ans. C'est quelque chose d'assez dingue quand même.
Et Mathieu Fèvre, le troisième larron tricolore, j'allais dire, qui lui ramène le bronze sur le géant au bon moment, parce que c'est pareil, lui, il ne faisait pas forcément une super saison. Et contrairement à Alexis, qu'on évoquait avant, lui, il a réussi à enclencher au bon moment pour décrocher cette belle médaille de bronze, Flo.
C'est le caractère, quoi. Je crois que c'est le champion avec un caractère. Il a été critiqué pendant un moment, d'être un peu impulsif, voilà. Mais en fait, il se retrouve pour cette médaille, pour cet événement. On ne l'attendait pas non plus autant l'année dernière au championnat du monde. Et il est présent, là, il est présent. Alors maintenant, il va être un petit peu catalogué homme des grands rendez-vous. Je ne pense pas que ça lui plaise. Je pense qu'il a envie, lui aussi, de remonter sur des podiums de Coupe du Monde et de regagner. Mais voilà, ça s'est joué à pas grand-chose, hein, quand même. C'était voilà, l'Autrichien qui sort. Bon, on était... ouais, c'était bien. mais ce qui n'empêche que lui, il a passé tous les écueils de cette deuxième manche. Et c'est vraiment... Ouais, je trouve que c'est encore une autre histoire, effectivement. On ne savait pas trop où il était. Il avait fait quand même, il l'a dit lui-même, hein, de bonnes manches. Il a eu du mal, notamment, à confirmer sur les deuxièmes manches en Coupe du Monde. Mais là, en revanche, il l'a bien fait. Donc, c'était le moment de le faire.
Messieurs, quelque chose à ajouter sur Mathieu Fèvre?
Ouais, c'est, alors il aime pas ça, mais c'est quand même un homme de grand championnat. Eh oui. Justement,
c'est pas si mal, hein.
Oui, c'est bien aussi. Mais
plus
je pense
que
bah, on reproche parfois à des sportifs français de pas être présents dans les grands rendez-vous. Lui, c'est presque le contraire. Mais je pense qu'effectivement, il doit se dire, il y a pas de raison que ce que j'arrive à faire aux Mondiaux ou aux Jeux, je puisse pas le faire tous les week-ends en Coupe du Monde. Et effectivement, il a tout. Et je me souviens de ce géant, je sais plus si c'était Altabadia ou Val, j'ai un trou, je suis désolé, c'est la fin de la quinzaine, où il est en tête de la première manche et où il passe mais complètement au travers de la deuxième. C'était Altabadia, le premier d'Altabadia, je crois. Ouais. Et où il finit peut-être 15e. Enfin, c'est vraiment, c'était terrible. Donc, ce qui aurait été dur pour le groupe de Géantis, parce que pour le coup, là, on a vraiment un groupe de top niveau, hein, avec trois skieurs qui finissent dans les six premiers. Et on le sait, et encore, on a perdu Victor Muffat-Jandet. Mais on sait qu'en géant, tous les week-ends, bah, on a potentiellement quatre Français dans les 10, voire deux dans les 5, voire un ou deux sur le podium. Donc, ne pas avoir de médaille dans cette discipline, ça aurait été dur. Et s'ils avaient fait 4-6-6, 4-5-5 même, ça aurait été vraiment, vraiment dur. Et pour moi, ce géant était extraordinaire. Cette seconde manche incroyable, des conditions dantesques. C'était vraiment épique. Moi, j'ai adoré cette course. C'est un des grands, grands moments des Jeux, je pense.
On a eu des belles courses, hein. La deuxième manche du géant, la deuxième manche du slalom, la descente. Il y a eu des beaux moments. On peut pas
les médailles,
ne pas...
que tu mets que les médailles françaises, Adrien.
Exactement. Non, justement, tu vois, tu me.
Ouais,
tu
il coupes, allait, mais il j'allais dire, parler des Suisses.
J'allais parler des Suisses, évidemment, ah, parce que les Suisses, c'est les grands, la grande nation de ces Jeux qui a raflé une palanquée de médailles. Flo.
Oui, c'est. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 5 champions olympiques différents, filles, garçons, dans un peu toutes les disciplines, plus d'autres médailles, hein, pas que des champions olympiques. Des champions qui ont vraiment confirmé, qui étaient leaders, qui étaient... et je pense que c'est la récompense d'un travail de l'équipe de Swiss Team, hein, depuis un moment où ils ont mis des moyens sur les plus jeunes. On les a vus arriver, hein, sur les groupes en dessous, Coupe d'Europe. Et puis, il y a cette... comment dire, les champions qui côtoient les plus jeunes, qui les accompagnent. On a vu Beat Feuille s'accompagner Odermatt, le prendre sous son aile sur les descentes pour expliquer un peu comment ça se passe. Et bien, tout ça, en fait, c'est l'essence même du sport et du ski. Cette transmission d'expérience, cette transmission, notamment en vitesse, par exemple, parce qu'on a beau avoir des beaux discours, l'exemplarité par le quotidien, je pense qu'il est essentiel pour les skieurs en général, et il a été, et c'est ça s'est vraiment vu avec l'équipe suisse.
Et on parle de la dépendance de certains sports sur le tableau des médailles. Bah, la Suisse, c'est 9 médailles en alpin, 14 au total. Donc voilà, ça donne un peu la réussite. 5 titres olympiques, il y en a 7 au total et 5 pour les skieurs alpins. Donc c'est plutôt une belle réussite. C'est historique, tout simplement.
Bah, ils ont 9 médailles, hein, les Suisses, ouais. C'est-à-dire autant que l'Autriche et la France, qui sont les deux pays qui suivent au tableau des médailles du ski alpin. Et comme l'a dit Flo, surtout 5 titres de champion olympique, avec 5 skieurs différents. Ça, c'est incroyable quand même. Donc, ils n'ont vraiment pas laissé grand-chose. Ils ont tout, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois des très, très grands leaders, ils ont la densité, l'homogénéité dans la plupart des disciplines. Donc, c'est vraiment une saison de rêve pour eux et une quinzaine historique. Hein. C'est vraiment c'est redevenu la grande nation du ski alpin sur ces Jeux, très clairement. Ouais.
Eh bien, j'ai l'impression que le bilan sur le ski alpin est complet. Merci Flo d'être venu nous apporter tes analyses, ta bonne humeur aussi dans ce podcast L'Heure Olympique. C'est toujours un plaisir de te recevoir. J'espère que tu as pris du plaisir toi aussi à venir, venir échanger avec nous.
Moi j'adore échanger avec vous, c'est bien d'avoir aussi des regards un petit peu différents parce que nous on est un peu, comme on dit, pas la tête dans le guidon mais la tête dans les spatules. Hein,
ouais. Ça c'est peut bien. Faire mal, attention.
Il faut être très souple. Oui, on est très souple et on est casqué surtout. Mais non, c'est bien d'avoir toutes vos analyses parce que des fois on voit pas. Voilà, on est un peu centré sur des détails ou inversement trop de manière trop générale. Et je trouve que ça nous apporte nous en tant que consultant. Donc merci à vous vraiment et bravo pour tout votre travail sur les articles. Là aussi, ça nous enrichit pour nos commentaires.
Au plaisir.
Merci Flo et bon repos.
Merci beaucoup.
Ouais. Exactement. On passe à la deuxième partie, la deuxième grande partie de ce podcast avec Tony Estanguet qui a accepté de venir échanger sur Paris 2024 dans l'heure olympique. Les Jeux Olympiques de Pékin terminés, les prochains se dérouleront dans un peu moins de 2 ans et demi et c'est à Paris que les athlètes du monde entier viendront nous éblouir. Pour évoquer ces sujets, nous accueillons à présent Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Salut Tony.
Salut.
Les Jeux de Pékin viennent de se terminer. Qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une image que tu retiens comme ça?
Bah forcément, c'est de nouveau de retrouver les performances des athlètes. Moi, j'ai été impressionné par tous ces sports. Le biathlon, bien évidemment, qui nous a quand même bluffé, le Quentin Fillon-Maillet. S'il n'y en a vraiment qu'une, c'est vraiment cet athlète d'exception qui a réussi vraiment à éclore et à réussir ses Jeux de manière incroyable. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a eu de très belles médailles en ski alpin, en glace. Moi, je trouve qu'au niveau sportif, c'était quand même super chouette.
Laurent ?
Ouais, 14 médailles pour la délégation française. C'est juste en dessous du record de Sochi et de Pyeongchang. Brigitte Henriques a parlé d'un objectif quasiment atteint. C'est également ton avis. Et tu juges ça positif, ces 14 médailles et 5 titres comme à Pyeongchang d'ailleurs.
Ouais, il y a eu 5 très belles médailles d'or. Effectivement, il y a eu aussi des déceptions, mais je crois que c'est toujours comme ça, que ce soit sur les Jeux d'été, les Jeux d'hiver, il y a toujours des déceptions aussi. Donc, c'est sûr qu'il y aurait pu avoir plus de médailles, mais je trouve qu'elles sont déjà très belles. Il y avait quand même une sacrée concurrence. Hein. On a vu un niveau sportif assez incroyable. Moi, personnellement, j'ai trouvé que les médailles étaient très chouettes. Je pense aussi au ski de fond, sur relais, là, qui était, je trouve, avec Maurice Magnifica notamment. Personnellement j'ai vibré. Alors après, c'est pas à moi de faire le bilan comptable du nombre de médailles, mais je trouve qu'il y a quand même une belle génération et une belle équipe de France.
Pékin, c'est terminé, on va déjà se projeter vers le grand rendez-vous, évidemment Paris 2024, et on voudrait commencer par parler de cette cérémonie d'ouverture qui est exceptionnelle à tous les sens du terme, et c'est une idée qui a fait l'unanimité, ça c'est plutôt cool.
Ouais, alors juste avant de parler de la cérémonie, déjà moi juste j'ai une pensée pour les athlètes paralympiques, l'équipe de France paralympique, parce qu'ils vont là en découdre aussi dans quelques semaines, et je pense que c'est bien aussi que on continue à soutenir les athlètes et les champions paralympiques. Mais c'est vrai qu'après, ben ce sera vraiment Paris 2024 et cette cérémonie d'ouverture, on l'a souhaité très ambitieuse, parce que depuis le début on s'autorise effectivement à être ambitieux sur Paris 2024. On avait envie que c'est le plus grand temps fort, 1 milliard de personnes regardent la cérémonie d'ouverture des Jeux, et donc on a envie que cette cérémonie elle nous ressemble, elle dise qui on est. On veut des Jeux spectaculaires dans la ville, on veut des Jeux populaires aussi, avec 10 fois plus de personnes qui pourront accéder à la cérémonie d'ouverture. Et puis voilà, c'est ce mariage heureux, je l'espère, entre la culture, le sport, des athlètes et leurs fans. Il y a vraiment de la place pour faire une très, très belle cérémonie, à la fois nouvelle, en rupture avec ce qui s'est fait dans le passé, mais tout aussi majestueuse, en capitalisant vraiment sur des sites iconiques qui font la fierté de notre pays partout dans le monde. Je pense que c'est important que cette audience internationale, elle puisse vraiment voir Paris.
Alors, c'est vrai que Maxime l'a dit, c'est une idée qui a fait absolument l'unanimité. J'ai l'impression que pour moi, c'est un peu l'acte de naissance de Paris 2024 au niveau planétaire. Voilà, tout le monde, ça a presque matérialisé dans les têtes de tout le monde, même si ce sont des images de synthèse, évidemment, ce qu'on a vu sur ce clip. Mais alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de cette idée et qui a eu cette idée ?
Oui, alors c'est une idée qu'on avait eue déjà en phase de candidature. Hein. On s'était posé la question quand on avait préparé notre dossier de candidature pour les membres du CIO. À l'époque, on l'avait pas souhaité l'inscrire dans le dossier de candidature parce qu'on savait qu'en termes de faisabilité, il y avait quand même encore pas mal de questions. Et donc, ensuite, quand on a gagné l'obtention des Jeux avec des cérémonies dans le stade, on a rechallengé, comme on l'a fait d'ailleurs sur d'autres discussions aussi. Et on s'est rendu compte que c'était faisable. On a beaucoup travaillé avec les services de l'État, avec la ville de Paris, pour essayer de s'assurer justement qu'une cérémonie d'ouverture de cette ambition était compatible et réaliste surtout.
C'est en termes de sécurité aussi, par exemple, ça entre en ligne de compte. Ouais, est-ce que le CIO est consulté là-dessus ?
Bien sûr. Ouais. On a travaillé beaucoup avec le CIO également. En termes de logistique, c'est un défi sans précédent parce qu'on mobilise des dizaines de milliers de personnes, voire donc même en termes de spectateurs, des centaines de milliers de personnes. Donc, ça crée une pression très forte d'un point de vue logistique, une complexité en termes de sécurité aussi. On a regardé avec les forces de l'ordre comment on pouvait garantir la sécurité et qu'on ne voulait prendre aucun risque sur ce sujet. Et puis, au bout de 60 réunions à peu près sur un an, on s'est rendu compte que c'était jouable et donc on est allé de l'avant et on a annoncé cette cérémonie d'ouverture en ville sur la Seine.
Et quel est le plus gros défi justement dans la logistique ? Il y a 60 réunions, mais quel est peut-être le point qui vous a, non pas posé le plus de problèmes, mais qui posait le plus de questions et qui était le plus inédit, on va dire, à résoudre ?
En fait, j'ai l'impression que pour un projet de cette ambition, la principale difficulté, ça va être la bonne coordination de toutes les entités. On s'est rendu compte que vu la taille et l'ambition, on va vraiment avoir besoin des services de l'État, de la ville de Paris, du mouvement sportif, bien évidemment, et des équipes de Paris 2024. Et donc, c'est cette répartition très fine des responsabilités entre tous ces acteurs qui a pris beaucoup de temps pour essayer de bien comprendre qui doit faire quoi pour réussir une telle cérémonie. Ça nous a pris du temps. Et maintenant qu'on a une copie assez claire, il n'y a plus qu'à faire. Et quelque part, ça va être absolument incroyable.
Avec une cérémonie qui se terminera près de la Tour Eiffel, hein, comme tu nous expliquais l'autre jour quand on s'est vu. Pour tout te dire, on a été un peu déçus par la vasque et la flamme de Pékin, parce que ce n'était pas suffisamment majestueux. Est-ce que dans votre idée, vous avez déjà une petite idée de ce qui se trame pour allumer la vasque? Ça va être sur la Tour Eiffel, ça va être sur le Champ de Mars. Est-ce que tu as des infos là-dessus à nous donner?
On ne demande pas qui encore.
Ouais.
Ouais, on est sympa.
Vous êtes sympa avec moi. Non, j'ai pas d'infos à vous donner. Bien évidemment, ça fait partie des sujets qui restent à expertiser. Là, on est vraiment parti sur le lieu, le parcours. Maintenant, il faut qu'on imagine tous les tableaux qui vont avoir lieu pendant ces 6 km de long entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna dans Paris-Centre, avec effectivement un finish au niveau du pont d'Iéna face à la Tour Eiffel. Donc, l'objectif, c'est de trouver une belle idée pour l'allumage de ce flambeau olympique, de la flamme olympique. Mais tout ça n'est pas encore arrêté. Mais en tous les cas, on a envie de faire un truc qui sera chouette.
Ouais. Je plaisantais sur le qui, mais à partir de quel moment on commence à réfléchir justement à l'identité du dernier relayeur ? Est-ce que c'est un truc qu'on décide, je ne sais pas, dans les 3-4 derniers mois, ou déjà ça commence à…
Non, pour l'instant, très honnêtement, on n'a pas du tout commencé à travailler le sujet. Je pense que c'est un sujet de la dernière année, effectivement. On a un relais qui va durer potentiellement entre 50 et 80 jours. Donc, il faut d'abord partir de Grèce à Olympie et puis imaginer tout un parcours qui va nous mener jusqu'à la Tour Eiffel, Pont d'Iéna, place du Trocadéro, où on imagine effectivement le finish. Donc voilà, toutes ces étapes sont importantes. Donc on n'est pas encore à savoir qui sera le dernier relayeur. Mais voilà, je pense que ça viendra dans la dernière année probablement.
Donc, quand on est patron comme ça du comité organisateur des Jeux Olympiques, soit un événement absolument gigantesque, j'imagine qu'il y a des choses qui sont contraignantes et puis il y en a qui sont euphorisantes. La cérémonie d'ouverture, ça en fait partie. Je sais pas, on rêverait tous, nous, de pouvoir avoir ces idées-là, mettre en place ce genre de choses. Ça, c'est une partie, même s'il y a 60 réunions en un an, je pense que c'est une partie qui rentre dans le cadre du plaisir, non ?
Ah mais c'est sûr, moi c'est un job de rêve, hein. Je suis en train de vivre une aventure absolument exceptionnelle. J'ai arrêté ma carrière sportive il y a 10 ans aux Jeux de Londres. J'ai commencé le projet Paris 2024 en 2014. Et donc ça fera 10 ans de vie complètement dédiée à ce rêve olympique qui continue pour moi. Et donc je mets toute mon énergie là-dedans. Chaque jour j'apprends des choses parce que quelque part je suis au contact d'administrations publiques, de grandes entreprises qui sont partenaires des Jeux, de toutes ces fédérations nationales, internationales. Donc c'est beaucoup d'acteurs à essayer de coordonner, encore une fois rester à sa place. De temps en temps, on n'est pas les mieux placés pour décider, donc on prend vraiment conseil auprès des experts. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, c'est une aventure juste dingue et incroyable qui continue pour moi. Donc voilà, j'espère vraiment ne pas vous décevoir.
Alors, il y a eu deux idées très novatrices, on l'a dit, la cérémonie d'ouverture et puis le marathon aussi ouvert à tous. Est-ce que vous réfléchissez à d'autres idées de ce genre ou est-ce que maintenant on va aller sur du plus classique pour la suite ?
Alors, c'est sûr qu'on ne pourra pas continuer. Il y avait vraiment une première phase de travail pour Paris 2024 à partir de la création du comité d'organisation en 2018 où voilà, pendant les premières années, c'était important de construire un projet très innovant, très spectaculaire, en rupture aussi sur la partie éco-responsabilité, puisqu'on veut réduire de moitié les émissions carbone, on s'y prend vraiment différemment, on essaie de mettre l'accent sur la pratique du sport, on a envie quelque part de démontrer que quand on organise le plus grand événement sportif de la planète, ça doit avoir un impact sur la pratique sportive dans un pays, et donc c'est pour ça qu'on a effectivement poussé cette mesure de 30 minutes de sport à l'école, c'est aussi pour ça qu'on a créé le club Paris 2024, qui est un espace gratuit, digital, qui permet de donner rendez-vous aux Français pour pratiquer des moments de sport, aller défier des athlètes, pouvoir participer effectivement au premier marathon olympique pour tous. Donc voilà, ce sont des idées assez originales qui nous permettent effectivement de fédérer, de partager la magie des Jeux, mais aussi d'essayer de faire plus de sport aux Français. Donc, on est toujours dans cet état d'esprit et même si les grandes fondations du projet sont déjà posées, il nous reste plus de 2 ans avant la cérémonie d'ouverture et moi, je suis convaincu qu'il va falloir innover encore jusqu'à la fin. Et donc, il y a encore de la place pour aller chercher des idées en rupture. On ne va jamais s'arrêter là-dessus parce que c'est notre responsabilité de combiner et concilier d'un côté l'ambition de jeux spectaculaires, inédits et novateurs, et d'un autre côté une rigueur, une forme d'exigence très forte du comité d'organisation, parce que c'est d'une complexité sans nom d'organiser 869 compétitions olympiques et paralympiques, d'accueillir 15 000 athlètes de 206 pays, 20 000 journalistes, un programme de billetterie à plus de 13 millions de billets. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a aussi la nécessité en permanence, tout en étant créatif, de rester très rigoureux et exigeant.
On va parler un peu des sites désormais. On sait que dans l'organisation des Jeux Olympiques, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux où on arrive sur les sites, ça sent encore la peinture fraîche, et d'autres où c'est prêt très en amont. Tokyo, évidemment, il y a eu le Covid, mais ils étaient prêts avant. Où serez-vous et à quel moment vous dites les sites seront prêts ? On pourrait commencer demain, que ça roulerait tout seul.
Ouais, c'est encore une fois, je pense qu'on ne peut pas trop prendre de risques sur ce sujet. Nous, on essaie vraiment d'être très rigoureux. On a une entité qui s'appelle la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, qui est en charge justement de livrer les infrastructures dont on a besoin pour l'organisation des Jeux. Elle fait un travail remarquable. Elle devait commencer les travaux en 2021, notamment sur le village des athlètes ou sur le centre aquatique. Ça a été le cas. Parce que voilà, malgré le Covid, on a vraiment fait attention à ce que les délais soient respectés. Parce que souvent, quand les délais prennent du retard, ben, ça veut dire des surcoûts, ça veut dire beaucoup de stress. Et pour l'instant, c'est aussi une ambition de Paris 2024 de rester sur un modèle sobre, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue environnemental. Donc voilà, il y a peu de construction puisqu'on est sur un concept à 95% d'infrastructures qui sont déjà existantes ou temporaires. Donc on va construire 10 fois moins d'équipements que sur les derniers Jeux pour justement réduire les risques de dépassement budgétaire ou de risque d'avoir des équipements qui ne sont pas réutilisés après les Jeux. On voulait absolument éviter ça. Mais le peu qu'on a à construire, on se met par contre vraiment une ambition très forte avec voilà, des processus très éco-responsables pour réduire l'empreinte carbone et aussi pour maîtriser les coûts de construction.
Tu as disputé 4 Jeux Olympiques en tant qu'athlète. En quoi cette expérience t'inspire dans la conception, la préparation des Jeux? Tu te mets à la place des athlètes en disant « Tiens, ça, je sais qu'ils vont, plutôt le voir comme ci, comme ça. » Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans ton esprit?
Alors moi déjà, c'est ma référence, donc au quotidien, j'utilise tout ce que j'ai pu apprendre en tant qu'athlète et c'est mon tempérament et mon caractère. Et encore une fois, je crois vraiment que le sport de compétition est une formidable école de la vie, on apprend beaucoup de choses. Ce que j'ai gardé moi de ces années-là, c'est le fait que pour réussir quelque chose de grand, ben, il faut être très ambitieux. Et quelque part, si on veut que ces Jeux y cartonnent, ben, il faut qu'on s'autorise à viser très haut et à être très ambitieux, quitte à être un peu en rupture par rapport à ce qui s'est fait dans le passé. Et puis ensuite, c'est effectivement là aussi une méthode de travail. On n'improvise pas pour gagner une grande compétition. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Ben là, c'est pareil. Il y a vraiment un suivi très précis, très fin. Semaine par semaine, on sait exactement ce qui doit être accompli pour rester dans les temps d'avancement de la préparation. Et c'est un travail collectif. On ne gagne pas une médaille seule, hein, même dans les sports individuels. Il y a souvent tout un collectif qui est autour et qui doit partager justement le projet. Pour les Jeux, je peux vous dire que c'est encore plus le cas. Moi, je suis impressionné et fasciné de voir combien le nombre on parle de milliers de prestataires qui doivent quelque part entrer dans le moule pour livrer le même événement au même moment. Et ça, c'est assez fascinant de voir voilà, cette dynamique collective qui est en train de se mettre en place pour Paris 2024.
Il y a un sujet sur lequel vous êtes très attendu, c'est celui de la maîtrise des coûts. On sait qu'une grande partie, et ce n'est pas un problème franco-français, on a vu qu'il y avait une désaffection des opinions publiques, non pas pour les Jeux Olympiques, mais pour l'organisation des Jeux Olympiques. Il y avait de moins en moins de candidatures. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel vous êtes très, très en alerte. Est-ce que vous êtes, quand je dis vous, c'est l'ensemble du comité organisateur, optimiste à 2 ans et demi des Jeux à ce niveau-là?
C'est sûr que c'est un défi du quotidien. Encore une fois, vu le gigantisme des Jeux et ce que ça représente, on parle quand même de 150 000 emplois qui sont mobilisés directement pour organiser un événement. Donc, c'est beaucoup d'argent, c'est aussi beaucoup de retombées économiques pour un pays. Rien que là, sur 2022, on va, nous, comité d'organisation, lancer 1 milliard d'euros de marché. Donc c'est colossal pour les retombées aussi pour les entreprises françaises, pour l'économie française. On va, nous, comité d'organisation, sur des fonds privés, investir 1 milliard d'euros dans des marchés qui sont accessibles voilà, à toutes les entreprises, hein, puisque c'est vraiment un processus d'ouverture et de concurrence. Donc c'est aussi intéressant de mettre en face des coûts qui sont importants, hein, puisque, encore une fois, le budget du comité d'organisation, c'est à peu près 4 milliards, on parle de 3 milliards 9, qui est financé par de l'argent privé et qui va permettre de générer beaucoup de retombées, y compris d'emplois et de retombées pour des entreprises françaises. Donc, pour répondre à la question, ben, on a commencé en 2018, il y a déjà eu 2018, 2019, 2020, 2021, donc 4 exercices budgétaires. Et à la fin de ces 4 exercices budgétaires, on n'a pas dépensé plus que ce qui devait être dépensé. Alors certes, il reste un petit peu plus de 2 ans et je ne vais pas m'avancer sur le résultat final dès aujourd'hui, mais en tous les cas, pour le moment, il n'y a aucun dérapage, ni budgétaire, ni calendaire, qui a été identifié. Il y a une conformité aussi très rigoureuse de toutes les procédures, justement, pour veiller au risque de corruption, pour veiller au risque de dépassement. On est contrôlé par la Cour des comptes, on est contrôlé par l'Agence française anticorruption. Donc, il y a vraiment beaucoup d'organes qui nous surveillent de très près et qui, du coup, nous poussent à être très rigoureux et exemplaires. Et pour le moment, tout va bien.
Bon, tant mieux alors. Depuis ta prise de fonction, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui puisse être un gros sujet ou un détail qui t'a frustré, inquiété, sur lequel tu as eu des doutes? Et puis, une autre petite question, il reste 2 ans et demi. Est-ce que tu as hâte d'être au Jeu de Paris ou est-ce que finalement, tu as aussi envie de profiter de ces 2 ans et demi-là? Et j'imagine qu'il y aura une forme de vide après les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Ça aurait été 10 ans de ta vie. Donc, est-ce que tu te dis, chouette, on se rapproche ou mince, on se rapproche? Ou les deux, tu vas peut-être me dire.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu les deux, tu as raison. Je pense que pour moi, c'est difficile aujourd'hui de me dire que c'est bientôt fini. Je vis un rêve de gamin et je vis une aventure très, très, très palpitante. Je ne vois pas les semaines passer, en fait. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Je ne vois pas les semaines passer. Ça défile beaucoup trop vite. C'est un peu stressant parce que des fois, on se dit, mais est-ce qu'on sera vraiment prêt en 2024? Et on revient là vite à nos outils de contrôle et on voit qu'on est dans les temps et que tout va bien. Mais c'est vrai que ça défile à une vitesse pas possible. Et d'un autre côté, on a aussi effectivement hâte d'y être parce qu'on sait que ces Jeux peuvent être un moment de fierté nationale, de cohésion, de fédérer comme ça tous les univers économiques, culturels, sportifs, toute la société civile autour d'un événement. Voilà, la France va accueillir le monde, on va accueillir 206 pays, on va être regardé par... plusieurs milliards de personnes, il y a à peu près 4 milliards de personnes sur la planète qui regardent les Jeux olympiques et paralympiques, c'est colossal. Donc, c'est une fenêtre d'exposition unique et on a envie que les gens voient une France qui réussit, une France qui est optimiste, une France qui rayonne, une France qui est un grand pays qui a tout pour réussir des Jeux d'exception. Donc du coup, ça met un peu de pression, mais j'aime ça aussi. Voilà, pour l'instant, encore une fois, je me sens... revitalisé régulièrement par l'énergie du projet parce que on a, je donne un autre exemple, 2300 communes un peu partout dans tous les départements qui sont labellisées Terre de Jeux 2024. Donc, même si elles n'organisent pas de compétition, elles se disent, nous, on a envie de soutenir, on a envie de s'engager dans le projet parce que le sport, c'est important pour notre territoire. Les Jeux, ça va être une opportunité aussi pour nous. Et quelque part, on a envie de proposer effectivement dans les écoles, dans les quartiers, des moments de sport en lien avec la dynamique des Jeux, peut-être accueillir la flamme des Jeux aussi en 2024. Donc, tout ça, c'est des moments un peu exceptionnels. C'est une fois tous les 100 ans. Hein. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé les Jeux. Il y a vraiment de la place pour faire de grands Jeux. Et le dernier message, c'est que pour moi, les Jeux seront ce qu'on va décider d'en faire collectivement. Je pense qu'il faut qu'on s'autorise à faire des choses assez différentes, uniques, ambitieuses, sortir un peu de notre quotidien pour, le temps d'un événement, s'autoriser à faire des choses exceptionnelles.
Je rebondis sur la question de Laurent, la première partie de la question de Laurent, sur ce qui, depuis que tu es en place, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas imaginé en positif ou en négatif, j'ai envie de dire ? Quelque chose dont la dimension t'a étonné, tu te dis, ah ouais, je ne voyais pas ça comme ça.
Oui, effectivement, je pense que ce qui nous surprend un petit peu tous les jours, c'est la complexité qu'il y a derrière chacun des sujets. Quand on travaille sur le plan transport des Jeux, on se rend compte qu'il faut 1000 bus. Qu'il faut plusieurs centaines et plusieurs milliers de voitures. Et tout ça fait que ce sont des chiffres qui sont très, très importants, très volumineux, qui nécessitent du coup d'aller chercher des solutions en dehors de la région Île-de-France, des fois même à l'international, parce que tout simplement, les capacités disponibles à l'instant T ne suffisent pas. Et c'est comme ça un peu dans tous les domaines. Quand on parle de restauration, on va devoir servir 13 millions de repas pendant la période des Jeux. Bon, ben ça, ça nécessite d'anticiper pour avoir des produits, si possible locaux, pour réduire là aussi les émissions carbone. Mais ben, ce n'est pas facile quoi, de faire en sorte que l'industrie puisse, encore une fois, fournir toutes les quantités. Donc, dans chacun des domaines, quand on ouvre un sujet, on regarde
c'est les tiroirs.
Et on se dit, mais waouh, mais comment on va faire quoi? Donc, ça nécessite là aussi ben, d'anticiper les choses, de faire appel à des filières qui s'organisent, qui se préparent à relever ce défi. Mais c'est vraiment un projet logistique. C'est le plus grand événement que la France ait jamais organisé. Et donc, ça nécessite effectivement de faire travailler des administrations, des entreprises, la société civile, des fédérations ensemble, même si d'habitude, elles n'ont pas à le faire.
Tu parlais de logistique. Il y en a une qui doit être énorme aussi à mettre en place, c'est pour la billetterie. J'imagine que c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de la place. Les gens ont envie d'un peu de savoir, est-ce qu'il y a déjà des dates qui sont fixées, des paliers, quand est-ce que ça ouvrira, quels sont les prix un petit peu qui vont être pratiqués? Est-ce que tu as des infos à nous donner là-dessus?
Alors, c'est l'un des prochains gros sujets pour Paris 2024. C'est vraiment l'objectif en 2022 d'avancer sur les sujets de billetterie. Notre objectif, c'est de pouvoir ouvrir la billetterie début 2023. Donc, sur le premier semestre 2023, peut-être même le premier trimestre 2023, on est en train de fixer cet objectif aux équipes. C'est effectivement un programme à plus de 13 millions de billets avec cette volonté bah, d'avoir des tarifs accessibles. Parce que c'est aussi ça la magie des jeux. Donc dans tous les sports voilà, on a envie d'avoir voilà, la possibilité pour les fans de pouvoir aller voir les jeux. On sait aussi, on l'a vu dans les dernières éditions des jeux, qu'il y a souvent plus de demandes que d'offres, donc ça nécessite bah, là aussi de trouver des solutions pour savoir qui seront les heureux élus. Aujourd'hui, la solution, c'est si vous voulez avoir le plus de chances d'avoir des billets pour Paris 2024, c'est de vous inscrire au sein du club Paris 2024. Voilà, c'est sur notre site internet, c'est gratuit. Ça vous permet d'être connecté le plus tôt possible à toutes les opportunités de billetterie qui vont s'offrir à vous.
Dernière question.
Oui, une dernière question sur la partie sportive. Alors, c'est pas ta responsabilité, mais pour que les Jeux de Paris soient pleinement réussis pour la France, mieux vaudrait qu'ils soient réussis sportivement aussi. Tokyo avait été un petit peu décevant, 33 médailles. On a beaucoup entendu parler de chiffres, notamment de la part de certains membres du gouvernement. On a entendu parler de 80 médailles. Laura Flessel, dès 2017, quand elle était arrivée au ministère des Sports, avait aussi parlé de cette fourchette. Claude Onesta, lui, qui est entré en fonction, qui a un rôle très, très important, notamment depuis Tokyo, a parlé de viser le top 5. Alors, le top 5, c'est très ambitieux puisqu'il fallait plus de 70 médailles pour être dans le top 5 à Tokyo. Ça voudrait dire doubler notre nombre de médailles, plus que doubler notre nombre de médailles. Est-ce que ça te paraît un objectif réalisable puisque ça va arriver très vite, d'autant qu'il n'y avait que 3 ans entre Tokyo et Paris, il faut le rappeler quand même.
Oui, écoute, moi, je crois vraiment que c'est comme ça que ça va marcher. C'est comme ça qu'on va réussir. Je crois qu'il faut être ambitieux. Il faut aussi se donner les moyens de notre ambition. La France a quand même, dans beaucoup de sports, de vraies chances de médailles. Même si ça n'a pas scoré dans certains sports à Tokyo, ce sont des sports où il y a eu dans le passé une vraie dynamique de réussite et un vrai savoir-faire, une vraie expertise pour aller chercher des médailles. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas retrouver cette réussite d'ici 2024. Voilà, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une vraie méthode qui est posée, effectivement dirigée par Claude Onesta, avec l'ensemble des fédérations, les entreprises aussi qui accompagnent les athlètes publics et les athlètes en direct. Donc voilà, moi, je suis optimiste. Je crois que notre rôle, en tous les cas, français, c'est de soutenir cette équipe de France. Elle va avoir besoin de soutien parce que, encore une fois, le home advantage, comme ils disent, l'avantage de pouvoir faire les Jeux à domicile, n'a de sens que si on a un vrai public qui soutient ses athlètes. Et donc, à nous, quelque part, d'être en soutien de cette équipe de France, parce qu'elle a, je trouve qu'elle a un beau visage, elle est conquérante et je pense qu'elle peut nous régaler en 2024. Donc, c'est sûr que nous, on a hâte de les retrouver, on a envie de les voir tous sur les podiums et nous, Français, il va falloir qu'on les soutienne très fort.
Et est-ce que tu sens juste une excitation particulière dans tes discussions que tu peux avoir avec les athlètes, ouais, qu'ils se préparent pas pour les Jeux Olympiques, mais vraiment pour les Jeux de Paris. Tu sens ça déjà?
Ouais, je sens ça. Même avant les Jeux de Tokyo, certains nous disaient qu'ils étaient déjà en train de se dire, de toute manière, moi, j'irai jusqu'à Paris parce que ça reste un objectif très fort. Donc c'est chouette. Ça montre que là aussi, il y a une surmotivation des athlètes français. Il va falloir la gérer. Mais je pense que c'est de bon augure parce que les athlètes français, ils se projettent et ils rêvent de pouvoir aller chercher des médailles devant leur public et de partager ce moment très fort. Donc, encore une fois, il y a tout pour réussir.
En tout cas, on aime ton optimisme, Tony. Merci d'être venu dans l'heure olympique nous éclairer sur les JO de Paris. On a tous hâte d'y être, je crois, et ça va venir plus vite qu'on ne le croit.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Tony.
Salut.
Au revoir. Salut.
L'heure olympique, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette quinzaine. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés tous les jours pendant ces JO. Un grand merci aussi à vous qui avez participé. Maxime, Laurent, Christophe, Simon, Raphaël, j'en oublie certainement énormément de journalistes sont passés, des consultants également. Merci pour vos analyses, pour ces bons moments passés ensemble. Et puis on remet ça dans 2 ans, peut-être même avant, on verra.
Ouais, 2 ans sans bon, tant pis là.
Ouais, ça va être dur.
Ça va être long. Hein.
Je crois qu'il va falloir penser à au moins un format mensuel pour sinon le sevrage va être trop dur.
Je pense, on n'y arrive pas.
Merci
on
à toi.
Pas. On n'y arrivera pas à tenir.
Salut, merci plaisir. Adrien.
Allez, salut, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.